Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. J'ai allumé le org. Oh, tu me le refais. Allez, refais-le pour nos...
Point org.
Voilà, pour nos auditeurs. Vous entendez, hein, c'est beau quand même. Hein. Oh, bah, oh, c'est Damien. Bonjour, bonjour Damien, tu vas bien donc, org.
Oui, ça va bien.
Donc tu vas, ça va bien. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien aussi. Merci de nous recevoir chez vous si vous êtes chez vous. Sinon, bah, comme vous dira Damien à la fin, vous avez les podcasts. Hein, il vous explique ça après. Donc là, eh ben, on parle de cinéma ma foi,
et
si
oui.
Tu es d'accord.
Nous parlons de cinéma et des films qui sortent cette semaine au cinéma, en commençant par un film d'animation pour les petits bouts. Ça s'appelle Max et Amy, Mission Pâques. Ça sort la bonne semaine.
Ah bah oui, j'ai appelé ma petite copine Naya pour qu'elle emmène son petit frère Lewen. Ça va leur faire du bien. Elle m'a dit, oh bah oui, j'espère que papa et maman vont être d'accord pour que j'y aille. Bon, je dis, écoute, demande-leur. Puis voilà, tu verras bien. Elle me dit, oui, oui. Voilà, donc Max et Amy, ben oui, c'est Mission Pâques, ben ça tombe bien, évidemment. Ça dure 1h16, ben c'est pour toute la famille, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est un film allemand, parce que c'est Ute von Munchau-Pohl qui est la réalisatrice de ce film, scénariste, chef monteuse, animatrice, donc allemande, elle a 64 ans. 20 ans de carrière, 7 films à son actif entre 2001 et 2020. Et puis, ah ben oui, on lui doit, c'était en 2012, on lui doit le corbeau chaussette, c'était dans Petit Corbeau, c'est adorable, et il s'appelle Chaussette, le petit corbeau. Et en 2015, après, on a eu La course du siècle avec elle. Et puis en 2017 d'abord, il y a eu L'école des lapins. Oh, c'est tout mimi, ça, L'école des lapins, avec Max et Amy, justement, qui étaient déjà là en 2017. Et puis en 2019, on a les F-15, Opération, Opération, c'était d'adorables lutins. Ouais, les F-15, c'est Elfie et Théo, qui était chef pâtissier, Théo le chef pâtissier. C'était très beau aussi. Et là, Max et Amy, moi, j'aime beaucoup, j'adore. J'ai mis plusieurs « oh, adore » parce que j'adore Max et Amy. Pâques approche à grands pas. Max, Amy et tous les lapins s'activent pour le grand jour. Mais les renards, captivés par les œufs décorés, et oui, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Amy et leurs amis afin de sauver la grande fête des lapins. Eh bien oui, les renards, mais chacun fait son boulot. Eh oui, le renard, lui, il aime bien manger les œufs. Voilà. Eh bien, faut voir comment ça va se passer. Qui va gagner? Le petit lapin, peut-être.
Et on le saura en allant voir Max et Amy, Mission Pâques.
Voilà. Eh ben voilà.
Nous devons savoir finaliser les œufs pour demain.
Dans un endroit secret, au cœur de la forêt.
L'œuf d'or a fait son choix.
Je vais devenir maître lapin.
Max, le lapin des villes.
On compte sur eux pour que tous les enfants aient leurs œufs de Pâques.
Les jeunes lapins s'entraînent pour devenir des champions de Pâques.
Si tu veux devenir maître lapin, tu vas devoir prouver que tu es vraiment responsable.
Comptez sur moi.
Mais leurs ennemis ont un plan.
Un jour, c'est nous qui cacherons les œufs. Et ce jour-là, tout le monde nous aimera. Parce qu'il n'y a rien de plus adorable qu'un renard.
Quels que soient ceux qui menacent Pâques, ils auront d'abord affaire à moi.
Attendez une seconde.
Vu les circonstances, toute aide est la bienvenue.
Mais pas celle d'un renard.
Un renard ?
L'eau d'une petite carotte.
Je dois trouver mon super talent de maître lapin.
Qui sait ? C'est peut-être le talent qui te trouvera.
Tu as confiance en moi, de tout mon cœur.
Peut-être qu'il faut qu'un renard rejoigne nos rangs si l'on veut que la fête de Pâques soit sauvée.
Ensemble.
Tous ensemble.
Max et Amy, Mission Pâques, au cinéma le 13 avril.
Yes. Et oui, ensemble, on est plus fort. Et donc, oui. N'hésitez pas à aller au cinéma en cette veille de vacances avec vos enfants, petits-enfants, Max et Amy, Mission Pâques. Et c'est dès aujourd'hui à 15h au cinéma Rex de l'Aréole, ainsi
très
que
bien.
Samedi et le début de semaine prochaine.
Rex, notre partenaire.
Un de nos partenaires du cinéma, le Rex à l'Aréole. Et maintenant, nous allons continuer avec Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Alors ça, c'est un film qui est attendu également.
Oula, oh oui, alors, c'est à partir de 10 ans. Alors j'ai demandé à Naya, la petite copine, elle m'a dit, je sais pas, faut que je voie. Tu crois que je peux ? Ben, j'ai des coups de voix avec papa, maman, ils vont te dire. Ça dure quand même 2h23. Effectivement, il y a quand même des scènes, il y a beaucoup de fantastiques, donc il y a des scènes, je sais pas, ça dépend de l'enfant, en fait, hein, ça dépend. C'est de l'aventure, donc du fantastique. C'est américain et britannique.
Et c'est le numéro 3 des Animaux Fantastiques.
Tout à fait, tout à fait.
Troisième épisode, Les Secrets de Dumbledore.
Voilà, le premier est sorti, Les Animaux Fantastiques, est sorti en 2016, en novembre 2016. Même réalisateur, même acteur, hein, ça ne change pas. C'était les aventures de Norbert Dragono, l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques, qui étudiait Harry Potter. Ça commence à New York en 1926. Ça, c'était le premier. Le deuxième, en 2018, novembre également. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Et c'était... alors, ça se passait en 1927. C'était la suite. Grindelwald s'évade. Il s'évadait, là. Même réalisateur, mêmes acteurs. Et là, on arrive, enfin, aux secrets. Ouais, les secrets de Dumbledore. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gilbert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Et oui, incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragono le soin de diriger une équipe de sorcières, de sorciers et de sorcières. Ceux-ci partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald de plus en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ? Point d'interrogation. Alors là, ben voilà, c'est David Yates, hein, c'est toujours le même, réalisateur, producteur britannique, 58 ans, 33 ans de carrière, 29 tournages, 2 prix, 11 nominations. Eh mais oui, alors pour Harry Potter, hein, évidemment, c'était d'ailleurs, je crois que c'était celui de l'Ordre du Phénix, qui avait donc reçu le prix... Pardon, le prix du public en 2008. Et puis il y avait eu en 2012, il a été aussi félicité pour Harry Potter, les reliques de la mort. C'était la partie 2 qui avait été primée également. C'est, alors on rappelle quand même, on le sait, d'après l'œuvre de J.K. Rowling, qui était institutrice, je crois d'ailleurs, à l'époque, et qui était quand même, comment elle n'était pas pauvre, mais ça n'allait pas fort pour elle. Elle a écrit ses romans. Ça a été donc réalisé au cinéma et elle est devenue millionnaire. Voilà, Madame Rowling. Et il y avait le scénariste Steve Kloves aussi, qui est très connu là-bas aux États-Unis comme scénariste. Et donc, elle est maman quand même de 7 romans d'Harry Potter, hein, Madame Rowling. Eh oui, ce n'est pas rien. Et là, elle continue avec Les Animaux Fantastiques. Alors, on a dans les rôles... qui reviennent. On a Eddie Redmayne, qui fait Norbert Dragono. C'est un acteur britannique, lui. On a Jude Law, bon, on le connaît, Jude Law, hein, britannique également. Il fait Albus Dumbledore. On a Mads Mikkelsen, qu'on connaît très bien aussi, un acteur danois qui donc joue le Grindelwald. On a Ezra Miller, qui est une actrice américaine. On a Alison Suddle. On a Dan Flogger, Callum Turner, William Nadigjlan. Voilà, dans les rôles principaux, des gens qu'on connaît, qui sont bien, quoi. Le casting est très bien. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Mais même si vous n'avez pas vu les deux premiers, mes petits choux, vous pouvez tenter celui-là. Hein. Tu crois pas, Damien, on rattrape vite quand même les histoires, non ?
C'est un film d'aventure, après il faut connaître un peu l'univers.
Oui, oui.
Et peut-être que de voir celui-là donnera l'envie de voir les premiers.
Ben oui, comme j'ai parlé du 1 et du 2, bon, on voit à peu près, il suffit de chercher un petit peu les personnages. Mais je pense qu'on peut quand même voir le troisième sans, si on n'a pas vu les deux autres, c'est dommage, quoi. Faut pas se priver quand même. Ouais, ça détend, hein, ça fait du bien, les trucs fantastiques comme ça. Puis la dame Rowling, elle est quand même douée. Elle a écrit des choses très très jolies. Voilà pour ça.
Donc, Les Animaux Fantastiques, Le Secret de Dumbledore, c'est maintenant au cinéma. Et nous allons continuer avec un film qui s'appelle Les Gagnants.
Yes.
Et c'est réalisé par Azed.
Oui, c'est Azdine Benjilali. Son vrai nom, mais tout le monde l'appelle Az, hein. De toute façon, c'est son nom d'artiste. Et donc, c'est une comédie qui dure 1h25, une comédie française. Il est réalisateur, cet homme-là, scénariste, acteur, il est français, il a 26 ans. C'est un humoriste aussi, hein. D'ailleurs, quand on le voit, on le reconnaît. On l'a déjà vu, soit à la télévision dans des émissions sur les humoristes, soit on a pu aller voir son spectacle, mais on le reconnaît aussitôt. Il a une tête extrêmement sympathique, d'ailleurs, Az. Il a une petite goutte sympathique, je dirais. Alors, et depuis 3 ans, il est dans les comédies les comédies clubs, oui, de tout Paris. Et il a été découvert, en fait, sur la scène du Jamel Comedy Club. C'est là qu'on a découvert son talent. Et puis, mais il n'est pas tout seul, hein. Il est avec Laurent Junka. J'avais oublié que c'était une co-réalisation. Eh bien oui, Laurent Junka, c'est un réalisateur scénariste français, il a 54 ans. C'est le père de Christophe Junka. Tu sais qui c'est, Christophe Junka, Damien ?
Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. C'était pas un sportif ? Non, mais tu peux le dire, je ne t'entends pas.
Titoff.
Ah, voilà.
C'est Titoff. C'est le, voilà, c'est le... Ben lui, c'est le petit frère, ils ont 4 ans d'écart. C'est Titoff. Et c'est Christophe Junka. Eh bien oui. Donc, Laurent Junka, il fait aussi beaucoup de mise en scène de théâtre. Et il fait aussi un one-man show, etc. Hein, c'est pareil. C'est dans la famille, ça. C'est le talent de la famille. Et puis, en 2017, il avait écrit une pièce qui s'appelle Inséparable, qui a très, très bien marché à Paris. Je ne sais pas, en banlieue, mais... Enfin, en province, je ne sais pas, mais à Paris, ça avait vraiment bien marché. Alors, les gagnants, il s'agit de 2 gagnants. Ce sont les gagnants d'un concours organisé par un journal. Ils vont passer une semaine à Marseille, chez leur idole. Oui, et ils sont filmés en live sur les réseaux. Aïe, là, là, alors ça, c'est la gloire. Alors, problème, 2 points. Les 2 gagnants sont des boulets. Gros problème. Alors, ils vont passer une semaine avec leur idole qui s'appelle Tom Leroy. Bah oui. Il s'appelle comme ça. Donc, on a Joe Star dans les rôles.
Joe Star qui joue Tom Leroy.
Oui, oui, tout à fait. C'est lui, l'idole. Quand il va les voir, d'ailleurs, il est catastrophé par les boulets. Alors, on a Alban Ivanov, il joue Nicolas, un des 2 gagnants. Il a 36 ans, Nicolas. Après, il y a Azed, c'est lui qui joue le rôle de Nabil, de 30 ans. On a Adèle Gallois, on a Samuel Bambi, on a Gloria Colston. Et on a... On a aussi Titoff, voilà, Christophe Junka, humoriste, comédien, là-dedans, dans Les Gagnants. Eh oui, ah oui, ouais. Rien que pour voir la tête de Joe Star quand il s'aperçoit que ces deux-là sont des grands couillons, ça vaut la peine de le voir quand il dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est pas eux quand même, les gagnants !» Eh ben oui, c'était eux les gagnants. 1h25, je ne sais pas si je l'avais dit, voilà. Oh, ben de quoi se détendre sans se prendre la tête, hein. Sans se prendre la tête. C'est important de se détendre absolument.
Voilà. Les gagnants.
Les gagnants.
Nabil, 30 ans. Nicolas, 36 ans.
C'est ces deux gars qui vont venir chez moi.
Là, faut voir la tête de
Joël. Vous êtes fan dans la famille ?
Ah non, pas moi.
Ah bon ?
Ah non, moi, je sais même pas qui vous êtes.
Nicolas, vous avez vu la maison, visité la propriété ?
J'ai visité la maison, mais j'ai pas encore vu la propriété.
On aurait pu avoir un con sur deux. Hein. Ils sont aussi cons l'un que l'autre, c'est fou ça.
Voilà donc les gagnants. Et maintenant, Anne, tu nous proposes la revanche des crevettes pailletées.
Ma foi.
Et alors ça, c'est également un deuxième épisode réalisé par Céline Le Gallo.
Eh bien oui, ah, c'était, le premier était très chouette, il a très bien marché d'ailleurs, les crevettes pailletées, qui est sorti en 2019. Et c'était c'était l'histoire de Mathias Le Goff, qui était vice-champion du monde de natation et qui est condamné à entraîner les crevettes pailletées après avoir tenu des propos homophobes. Aïe, aïe, aïe. Alors, les crevettes pailletées, on va dire tout de suite ce que c'est, parce qu'on va y revenir pour le deuxième. C'est une équipe de waterpolo gay. Voilà, c'est ça. Alors, ils partent en Croatie, donc, les crevettes pailletées, avec justement Mathias Le Goff qui est puni. Et ils y vont pour participer aux Gay Games. Voilà. Donc, c'est le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Ça, c'était dans le premier. C'était Nicolas Gobbe, déjà d'ailleurs, qui jouait Mathias Le Goff. Nicolas Gobbe, qui est un grand comédien. Nicolas Gobbe, franchement, beaucoup de talent. Mais là, de toute façon, le casting est formidable. Donc, c'est le même réalisateur pour les deux, Cédric Le Gallo, tu l'as dit d'ailleurs. Et il y a Maxime Govaré aussi qui a participé au scénario. Donc, on peut dire que c'est une co-réalisation quand même. Donc, La Revanche des Crevettes Pailletées, c'est 1h53. C'est une comédie donc dramatique française. Il y a 3 nominations au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2022. Et il y a également... c'était en 2019 que ça avait été primé aussi. Il y avait eu le prix du public quand même. Hein, et un prix à Stuttgart aussi. Un prix pour le Festival international du film francophone. Donc, ça plaît. Hein, c'est du cinéma qui plaît. Cédric Le Gallo, réalisateur, scénariste, acteur français. Voilà, il a été reporter pour la télévision, Cédric Le Gallo, dans sa vie. Mais oui, par exemple, sur TF1, il participait, je crois qu'il y a une, c'est terminé, mais enfin, il participait à 1h50, 1h50, sur TF1, 50 minutes inside. Je ne connais pas bien, moi, cette émission, mais bon, en tout cas, il en faisait partie. Et il est comédien dans la troupe de Pierre Palmade également, pour le situer, Cédric Le Gallo. Bon voilà, c'est quand même, c'est très chouette. Hein. C'est un cinéma très drôle, plein d'humour, avec des acteurs au top. C'est la suite des péripéties des crevettes pailletées, on l'a dit. Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, cette fois c'est Tokyo, les crevettes pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincés au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe. Aïe, aïe, aïe. Alors, les scènes qui se déroulaient en Russie ont été tournées en Ukraine. Alors là, ça paraît... Je sais bien qu'en ce moment, on parlait de la Russie et de l'Ukraine, c'est un peu curieux, mais ça n'a rien à voir, puisque le film était déjà dans la boîte, hein, comme on dit. Mais c'est comme ça. Et alors, les scènes se sont déroulées. Alors là, quand même, c'est incroyable. Entre Kiev et Lviv. À l'époque, Kiev, qui était une ville entière. Hein, il n'y avait pas eu de tout ce qui s'y passe. Donc, ça a été tourné là. Et il disait d'ailleurs, Cédric Le Gallo, l'accueil avait été très chaleureux. Il y avait des comédiens qui avaient été castés sur place et qui étaient vraiment excellents. Voilà ce qu'il disait. Au moment quand il a terminé son film. Donc, il co-réalise, on a dit, avec Maxime Govaré, qui a 41 ans, il est réalisateur, scénariste français. Il a 9 ans de carrière, 8 tournages, 2 prix, 7 nominations. Ça marche bien, hein, ça marche bien pour lui. On lui doit, en 2017, Daddy Cool. Daddy Cool, on s'en souvient quand même. C'est un film qui est repassé à la télévision, d'ailleurs. Vincent Elbaz, Laurence Arnay... Voilà, c'était un gars qui s'appelle Adrien et qui montait une crèche à domicile. Et ça, tout ça pour reconquérir la femme de sa vie qui en avait marre de le voir ben, ne rien faire, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est la comédie là est titrée une comédie décapante et nécessaire, plus loin, plus fort, plus beau. Voilà comment a titré la presse. Et il y a des scènes d'eau. Uniquement dans le premier, en fait, parce que le froid qu'ils ont subi là-bas a constitué l'une des difficultés principales du tournage. Parfois, ils ont tourné à moins 20 degrés. Donc, évidemment, il y a moins de scènes d'eau que dans le premier, forcément. Alors, on a Félix, dans les acteurs, hein, on a Félix Martinez, Benoît Maréchal, Pierre Samuel, on a Maya Kesmand, on a Geoffrey Couette. On a Romain Brault, on a Bilal El Atrebi, on a Michael on le connaît très bien. Il y en a quand même pas mal qu'on connaît, hein, qu'on reconnaît, si on a l'habitude d'aller au cinéma. On a Michael Abitboul, on voit bien sa tête. Alban Lenoir, Nicolas Gobbe, je disais qu'il était déjà dans le premier. C'était lui le puni, le professeur puni. Et on a David Bayot, on a Romain Lancry aussi, Roland Menou, voilà, dans tous ses rôles. Et puis, il y a, alors, en fait, Bilal El Atrebi, que j'ai nommé tout à l'heure, c'est un petit nouveau. Il n'était pas dans le premier, il a rejoint, donc, la Joyeuse Bande, cet acteur. On ne le trouve pas dans le premier. Mais là, il y est. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est de la grosse détente. Hein. C'est vraiment agréable. Les acteurs sont vraiment... c'est un très beau casting. Ils sont au top, top, top. Bravo à Cédric Le Gallo, ma foi.
Ouais. Je vous présente le super joueur dont je vous ai parlé, Selim.
Salut.
Selim, je te présente les crevettes.
Les crevettes? Parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est la
tête. La tête, et avec les paillettes, c'est... Ouh, yeah, c'est la fête. Voilà, merci Damien.
Moi, je t'ai serré là, tes potes, on dirait tous dégués.
C'est un peu le concept de l'équipe, oui. Et moi, tu m'appelles. Ah.
On n'est pas là pour se massacrer, hein.
On va faire comment pour gagner des matchs?
Tu lui as bien dit que tu l'emmenais au Gay Games.
C'est juste une équipe de water-polo en transit pour Tokyo, sans aucune intention de nuire à votre pays.
Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord?
Quelle chance d'être né avec si peu de couilles.
Il faut appeler les flics. Avec Damien, on est tombé dans un guet-apens.
I love the grinder!
The kick the gays! Yeah!
Vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays.
J'ai encore fait n'importe quoi.
Toi, j'étais bien foutu de ma gueule.
Attends, attends.
Ça me l'entend de merde. Je suis pas comme vous.
Pourquoi vous avez si peur de nous? Qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement?
J'ai jamais demandé à être différent.
J'en peux plus, moi, de cette obsession de créer sa différence, alors que tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde.
Si on a pu avoir des enfants, si on a pu se marier, c'est grâce à des gens comme eux, qui combattent depuis des années l'homophobie, à grands coups de talons aiguilles et de gay pride.
On est des crevettes! On est des rebelles! On est des insoumis!
Et tu comptes faire quoi, là, Mélenchon?
L'enfer.
Là, il a dit, crever, il moi, je vous dis. Quoi.
Voilà la revanche des crevettes pailletées, deuxième épisode.
Et Cédric Le Gallo a quand même dit une chose qui est assez intéressante. Il a dit j'avais vraiment le souci de ne pas trahir ce milieu, ni de l'édulcorer d'ailleurs, mais en rendre compte, montrer à quel point il est haut en couleur et comment il peut être délirant. En revanche, je veux juste raconter une bande de potes et non pas raconter tous les homosexuels. Ça, c'est important ce qu'il dit par rapport à son film.
Et donc, ça sort aujourd'hui.
Eh mais oui, dans les cinémas de proximité qu'on adore.
Et voilà. Maintenant, nous retrouvons Étienne Comard à la réalisation du film À l'ombre des filles.
Oui, oh là là, À l'ombre des filles. Quelle proposition particulière. 1h46, c'est une comédie, c'est musical, c'est français et belge. Alors, on a Étienne Comard, tu l'as dit. Alors, lui, c'est un réalisateur, scénariste, producteur. Il a 57 ans, il est français. Il a 31 ans de carrière, 29 tournages. Eh bien, oui, quand même, il est scénariste, il est dialoguiste, il est producteur également. Il a eu 2 prix, 12 nominations. Et il travaille aussi avec Didier Vinson, qui est un scénariste. En fait, ils sont 4 là, à lui avoir donné un petit coup de main. Il y a Didier Vinson, il y a Marine Niman, il y a Marcia Romano et il y a Raphaël Moussa-Fir. Donc, ils s'y sont tous mis C'est vraiment... Alors, le premier long-métrage qu'on doit à Étienne Comard, c'est en 2016, un film qui a très bien marché, qui était très chouette, c'est Django. Alors, Django, c'était avec Reda Kateb, et il y avait Cécile de France également, qui a eu un prix et 11 nominations quand même. Et puis, c'est lui aussi, en 2010, qui a réalisé un très, très beau film également, Des hommes et des dieux. Il était scénariste, là, pour Xavier Beauvois, en fait. C'est lui qui a scénarisé Des hommes et des dieux. Oui, avec Lambert Wilson, on connaît Michael Lansdale, etc. Donc là, alors, on nous dit que Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d'animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté au tempérament difficile des détenus. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d'offrir à ses femmes un semblant de liberté. Alors dans les rôles, on a Alex Lutz qui joue Luc, c'est lui le chanteur lyrique. On a Agnès Jaoui, on a Afzia Herzi, on a Kim, on a Michel Moretti, on a Verle Bettens qui est un acteur belge. On a Marie Berthaud, Fatima Beria, on a Anna Najder, on les connaît la plupart, on les reconnaît en tout cas. Quand on les voit, c'est un joli casting. Alex Lutz encore, mais oui, il tourne beaucoup. Et à chaque fois, vraiment, c'est un grand plaisir de le voir, Alex Lutz aussi, ainsi que tous les autres d'ailleurs. Alors, Étienne Comard nous dit, comme Django, le film parle de musique. C'est la retranscription d'une émotion à travers l'abstraction musicale. Et je l'associe aisément à l'écriture cinématographique. Ce film doit montrer à quel point le chant peut être une libération. Et quoi de mieux qu'une prison pour exprimer la métaphore de cette libération ? Oui, cette prison pour femmes. Le réalisateur, il s'est rendu plusieurs fois à la prison pour femmes de Bapaume. Bapaume, c'est dans le Pas-de-Calais. Et en fait, dans cette prison, une chorale mixte avait été ouverte. Donc, il est allé voir. Il a également fait la connaissance de Michael Andrieux, qui est musicologue et professeur au conservatoire et qui a animé des ateliers de musique en prison. Donc, qui a été un très, très bon conseiller, bien sûr. Et pour son film, le réalisateur a mélangé des professionnels et des non-professionnels. Plusieurs castings sauvages ont vu plus d'une centaine de femmes. Il n'y a pas de playback dans ce film. Tout est en direct. Ça, c'est important quand même. Chouette. Eh oui, L'ombre des filles. Beau casting, beau film. Ouais. Belle comédie.
À l'ombre des filles. Maintenant, c'est le dernier piano de Jimmy Kairouz que nous retrouvons.
Oui, le dernier piano. J'espère que non. Hein. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Ah non, il parlait pas du meuble. Bon, d'accord. Alors, ça dure 1h50. C'est un drame libanais. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2020. C'était dans la catégorie Label, les premiers films. C'est son premier long-métrage, Jimmy Kairouz, réalisateur, scénariste libanais. Il a 35 ans. Eh bien, ça commence bien pour lui, justement. Il avait déjà été très primé en 2016 pour deux courts-métrages. Qui avait été reçu excessivement bien, Nocturne et In Black. Et l'autre, c'était celui-là. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là qui a été très, très remarqué. Du coup, ça lui a permis d'aller plus loin et d'arriver au premier long-métrage, justement. Ah oui, en plus, Nocturne in Black, ça se passait au Moyen-Orient, dans un quartier ravagé par la guerre. Il y avait un musicien qui tentait de reconstruire son piano qui avait été détruit par des terroristes. C'était Tarek Yaakoub qui était dans le film. On va le retrouver, d'ailleurs, dans ce film, dans Le Dernier Piano. C'est son acteur fétiche pour l'instant, apparemment. Donc c'est l'histoire de Karim, un pianiste de talent. Il a l'opportunité unique de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets. Et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s'enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l'État islamique, Karim n'a plus qu'une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. un long voyage commence pour retrouver sa liberté. Alors donc c'est Tarek Yaacoub dont je viens de parler, hein, qui était dans le court-métrage très très primé. Il a le rôle principal, c'est Karim, il est assez formidable, acteur libanais. On a une actrice libanaise aussi qui est très appréciée chez elle, Rola Barkhmuti. On a Mounir Maasri, on a Ibrahim El Kurdi dans les rôles principaux. Ce sont tous des acteurs libanais que je viens de citer là. Le film est basé en fait sur l'histoire vraie d'un jeune pianiste qui s'appelait Akram et qui a été découvert en train de jouer du piano avec l'ambition de redonner de l'espoir à ses voisins. Il défiait ainsi le pouvoir en place dans son village. Et nous dit Jimmy Kerouz, le réalisateur, nous dit ce long métrage place la musique comme une balise d'espoir, remplissant le vide laissé par la bataille, pour la survie dans un monde déchiré par la guerre, touchant des millions d'âmes piégées dans cette calamité. 90% du film a été tourné au Liban. Mon film, dit-il, rappelle que même dans un monde déchiré par la guerre, le terrorisme et les violations quotidiennes des droits de l'homme, la beauté de la musique et son pouvoir fédérateur ne diminuent pas, ce qui est en fait une cause pour laquelle il vaut la peine de se battre. C'est très beau ce qu'il nous dit. Bravo, monsieur Jimmy Kerouz, pour votre premier long-métrage. Très beau.
Et donc, ça s'appelle Le Dernier Piano. Et maintenant, avec Elie Daguerre, nous retrouvons le film Face à la mer.
Face à la mer. 1h56, c'est un drame libanais, français, belge, américain, qatarien. Tout le monde s'y est mis. Il y a 2 nominations à la quinzaine des réalisateurs en 2021 et une nomination au Festival de Cannes 2021. Elie Daguerre, c'est son premier long métrage. Réalisateur, scénariste, directeur de l'animation libanais, il a 36 ans. Eh oui, on continue. Hein. J'avais mis les deux côte à côte parce que ce sont 2 films libanais. En 2015, il a eu un court-métrage, lui aussi récompensé par la Palme d'Or. Et en 2007 aussi, il avait fait un court-métrage qui a été très bien reçu, ce qui lui a permis d'arriver au premier long-métrage. Mais oui, alors c'est l'histoire de Jana qui revient soudainement à Beyrouth après une longue absence et qui reprend contact avec la vie familière, mais étrange, qu'elle avait quittée. Beyrouth, c'est la capitale du Liban, hein, du Liban, pardon. Liban, non, je ne sais pas, mais du Liban, oui. Beyrouth, eh bien oui. Donc on a Manal Issa qui joue le rôle de Jana. C'est son deuxième rôle au cinéma. C'est la deuxième fois qu'elle tourne. Elle est franco-libanaise, Manal Issa. On a Roger Hazard, qui est un acteur libanais. On a Yara Abou Oudar, qui est une Libanaise. On a Rabi Elzaher, qui est un acteur égyptien avec eux. Alors, le réalisateur, en fait, a voulu décrire l'état mental dans lequel sont les Libanais à l'épreuve de l'histoire depuis plusieurs décennies. Je voulais, dit-il, que le film rende compte du pays, de ses habitants et des textures de Beyrouth. Voilà, je pense qu'il y a réussi avec Face à la mer.
Et donc, c'est réalisé par Elie Daguerre. Et maintenant, Jonas Carpignano nous propose le film À Chiara.
À Chiara. Chiara, c'est un prénom, on est d'accord, hein? On a Chiara Mastroianni, par exemple, qu'on connaît absolument, cette belle et talentueuse comédienne qui est la fille de Catherine Deneuve et de ce regretté Mastroianni, son père. Hein. Eh ben oui. Ça dure 2h01, elle n'a rien à voir là-dedans, mais c'est le prénom qui m'a fait dériver un petit peu, mes chéris, ne m'en veuillez pas. J'ai tout de suite vu la Chiara qu'on connaît. Voilà. Et oui. Donc c'est un drame italien. Il y a un prix, une nomination à la quinzaine des réalisateurs 2021, catégorie label Europa Cinéma. Jonas Carpignano, mais oui, réalisateur, scénariste, producteur italo-américain. Il a 38 ans, 9 ans de carrière, 5 tournages, 3 prix et 15 nominations. Et en 2017, on lui doit Atiembra, ça veut dire le bélier en fait, hein, quand on traduit. Et c'est un drame avec Pio Amato. Et, ah oui, il y avait aussi Damiano Amato. Il y avait dans la famille Amato, hein, ils étaient 2. Il y a eu 3 nominations et un prix, Label Europa, décidément, déjà en 2017. Et oui, donc il est habitué. Il va s'habituer, hein, Jonas Carpignano, là. Carpignano, c'est pas facile à dire. Il va s'habituer au Label Europa Cinéma, lui. Je sens bien ça. Chiara a 16 ans et elle vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener l'enquête pour le retrouver. Mais plus elle s'approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine. Alors, dans le rôle de Chiara, on a Swami Rotolo. Swami Rotolo, eh oui, donc elle est... Eh oui. Il y a Claudio Rotolo. Alors là, c'est toute la famille Rotolo. Hein. Dans la famille Rotolo, je veux Swami, je veux Claudio, je veux Gracia Rotolo, je veux Giorgia, je voudrais bien Vincenzo. Voilà. Hein. Est-ce que je les ai dans les cartes là, Damien, tu les as, toi, dans tes cartes de famille, là, non? Les Rotolo?
Non.
Oh non, t'as pas.
Non, j'ai pas ça.
Bon, ben moi j'en ai quatre. Hein. J'ai gagné. On a Carmela Fumo, on a Antonina Fumo. Dans la famille Fumo, j'en ai que deux, moi. Tant pis. Et puis, voilà. Et on a aussi un acteur burkinabé qui s'appelle Koudous Sayen dans ce film. Alors, c'est titré En immersion dans une famille mafieuse inoubliable, un grand film, une beauté furieuse. Oui, en fait, les Rotolo, là, ce sont des mafieux. Bon, ben, je te rends les cartes, tiens, je te les donne, les Rotolo. Voilà, je n'en veux plus. Je plaisante, je me les garde. Bon, mais mes chéris, hein, si vous aimez un peu les familles mafieuses, Akara, c'est tout à fait pour vous. Non, mais bon, c'est du beau cinéma quand même, hein. C'est du joli cinéma, ça. Eh oui, Akara.
Akira, donc, de Jonas Carpignano. Et maintenant, on revient en France avec Gaspard Noé,
oui.
Et le film Vortex.
Oui, Vortex. Eh oui, 2h22. Oh, est-ce qu'on peut manger des pop-corn au cinéma maintenant ou est-ce qu'il faut le masque? Non, on peut. Ah bon, bah alors, 2h22, mes chéris, emmenez vos pop-corn avec vous. C'est un drame français et belge. Eh ben oui, il y a une nomination à Cannes hein, en 2021, catégorie Cannes première. Gaspard Noé, mais on le connaît, Gaspard Noé, de toute façon. Bah oui, il est réalisateur, scénariste, acteur franco-argentin. Il a 58 ans, il a 36 ans de carrière, 30 tournages à son actif, 2 prix, 35 nominations. Mais oui, alors en 2012, lui, il avait réalisé 7 jours à la Havane, qui est un drame. Il y a 7 histoires et il y a 7 personnages différents. Dans ce film, il y avait eu 6 nominations au Festival de Cannes 2012. Et puis en 2018... il a réalisé Climax. Oui, ça, il aime bien quand ça finit par un X, hein, Gaspard Noé. Là, c'est Climax. Après, on verra Vortex. Donc, c'était pour les moins de 16 ans. C'était un drame, un thriller, qui était quand même un petit peu... Attention, hein, avec Sofia Boutella et Romain Guilherme, ça, c'était quand même un petit peu violent. C'était, en fait, c'était naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Hein. C'était ça, la quinzaine des réalisateurs 2018... avait décerné à Climax le prix Art et Essai. Et il y avait 3 nominations. Art et Essai, le cinéma Rex de l'Aréole, est un cinéma d'art et essai. Au fait, ça me revient là, en même temps. Voilà. Alors, Vortex, la vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Un couple âgé vit dans un appartement parisien, submergé de livres et de souvenirs. Lui est cinéphile. Ah, ce serait notre copain, tu vois, il est cinéphile. Historien et théoricien du cinéma, s'il vous plaît. Il écrit un ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. Elle, psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Amoureux et indispensables l'un à l'autre, ils vont vivre leur dernier jour. Alors on a Françoise Lebrun dans le rôle de la mère. On a Dario Argento, oh là là, grand acteur italien qui joue le rôle du père. On a Alex Lutz, mais c'est encore lui, chouette alors, qui joue le fils. On a Kylian Déré, qui joue le petit-fils. Alors lui, maintenant il a 10 ans, il devait avoir 8 ans au moment du tournage, Kylian Déré. Et alors il y a une chanson magnifique, évidemment, qu'on entend dans le film, c'est Mon ami la rose, chantée par Françoise Hardy. Cette chanson a été créée en 1965. Et on est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Ça commence comme ça. Très, très belle musique, très belle chanson. Vortex, alors c'est donc c'est son premier long métrage, attention, tout public. Parce que d'habitude, c'est un petit peu moins 16, moins 12, bon. Mais là, c'est tout public, voilà, de Gaspard Noé. Il avait envie de faire un film qui fasse pleurer aussi fort que lui-même, quand il a pleuré, comme il a pleuré, lui, dans la vie, et il voulait qu'on puisse pleurer au cinéma comme on pleure dans la vie. Voilà pourquoi il voulait que ce soit tout public. Belle idée, finalement. Eh ouais, on est bien peu de choses. Tu la connais, cette chanson, Damien, je suppose.
Oui, tout à fait.
Et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. Ah ouais, ça commence comme ça, avec la jolie voix, la très jolie voix de Françoise Hardy. Eh bien, on va passer à autre chose, si
et
tu
veux. Donc, maintenant, c'est Jean-Louis Crow qui nous propose un film qui s'appelle La Fraude.
Ah, 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 La Fraude. Un autre genre. Oui, c'est un drame français qui dure 1h23. Ben, Jean-Louis Crow, oui, tu l'as dit, c'est son premier long-métrage aussi. Là, cette fois, j'avais des premiers longs-métrages. Ça m'intéressait, ça, quand même, de faire connaître à nos auditeurs tous ces gens-là qui commencent des longs-métrages et qui vont peut-être faire des grandes carrières, justement, et dont on parlera beaucoup au fur et à mesure. Lui, c'est Jean-Louis Crow, donc réalisateur, scénariste, chef monteur. Il est producteur, il est écrivain également. Alors lui, ce n'est pas un débutant, c'est son premier long-métrage parce qu'il a fait plein d'autres choses. Il a 72 ans, il est réalisateur de documentaires, c'est ça. Ça a été ça son travail. C'est un auteur de fiction documentaire et de fiction documentée aussi d'ailleurs. Et aussi des documentaires fictionnés. Les mots sont un petit peu particuliers. Il a été critique à la Revue du cinéma, il a réalisé des courts-métrages, beaucoup de courts-métrages, entre 70 et 88, et puis il a réalisé des documentaires pour FR3, FR5, Paris Première, Planète, Public, Sénat, etc., etc. Donc il a beaucoup travaillé pour la télévision avec ses très beaux documentaires. Donc là, alors le film La Fraude est librement inspiré des questions à l'abbé Violet sur la sexualité. C'est pas Violet l'abbé, hein, c'est son nom Violet. V-I-O-2-L-E-T, hein, c'est pas. Voilà, je précise. 1968, on est en 1968, dans la pension où il coule des jours paisibles, un vieil abbé, artiste peintre et jeune d'esprit malgré son âge, reçoit une lettre qui aurait dû lui parvenir 30 ans plus tôt. Ses souvenirs se réveillent alors. Curé débutant à Paris, dans les années 1920, et frappé par l'ignorance d'une jeune fille en matière de sexualité, il a tenté de lui éviter l'enfer conjugal dans lequel beaucoup de ses semblables étaient plongés. Mais ses velléités éducatives se sont vite réduites à ressasser un dogme, ah oui, indépassable pour son Église. Deux points, ouvrez les guillemets. Le liquide fructifiant ne doit pas être détourné du vase féminin. Tout le reste est fraude. On ferme les guillemets. 30 ans plus tard, la culpabilité, l'asservissement et finalement l'issue fatale auquel il a condamné sa jeune paroissienne lui reviennent en pleine face. La fraude, c'est un voyage au pays d'avant. Avant qui ? Avant MeToo. C'est ça, surtout. C'est un voyage au pays d'avant MeToo. Il y a Didier Moreira dans les rôles, il y a Romain Torres, il y a Sabine Dallium, on a déjà parlé d'elle d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps dans les films. On a Fleur Blanchard, on a Jean-Michel Hernandez dans les rôles principaux. Jean-Louis Crow, là, s'est lancé dans une histoire extrêmement intéressante, mais un peu compliquée, et voilà, il faut suivre cet abbé qui, 30 ans plus tard, reconnaît qu'il a commis une sacrée erreur. Et voilà, la fraude.
Et maintenant, on va continuer avec les films qui sortent cette semaine. Et c'est une réalisation de Thierry Desmazières et Alban Terlet. Ça s'appelle « Allons enfants ».
Et oui, les documentaires. J'ai trouvé deux documentaires assez intéressants. Donc, Allons enfants, 1h54, c'est une co-réalisation, tu l'as dit, hein, Thierry Desmazières et Alban Terlet. Alors, Thierry Desmazières, réalisateur, scénariste, coproducteur français, il a 62 ans, 5 ans de carrière et 5 tournages à son actif. Il a eu une nomination meilleur documentaire en 2019 pour avoir réalisé Lourdes, le documentaire sur Lourdes, aux lumières de la presse étrangère 2020. Il a eu cette très jolie nomination. Et puis Alban Turley, réalisateur, directeur de la photographie, monteur, journaliste français. Il a 45 ans. Il a monté énormément de courts-métrages, de clips et de films publicitaires. Lui, Alban Turley. Et là, voilà, il s'est rapproché de son ami pour réaliser ce documentaire au cœur de la capitale. Un lycée tente un pari fou. Intégrer des élèves des quartiers populaires et briser la spirale de l'échec scolaire grâce à la danse hip-hop. Allons enfants et l'histoire de cette expérience unique en France. Eh oui, joli. Je trouvais que c'était joli quand même, franchement. Si ça donne des résultats positifs, ma foi, ça vaut la peine. Et puis le deuxième, tu veux le deuxième?
Et le deuxième documentaire, ça va être un film qui s'appelle Le Stade de Éric Anezeau et Mathieu Voller.
Eh oui, Le Stade. Alors attention, le film est en noir et blanc, le documentaire. Très joli. C'est un documentaire qui est français, donc, qui dure 1h47. Donc on a Éric Anezeau, comme tu as dit, réalisateur, producteur, scénariste, journaliste. Il a 50 ans, 9 ans de carrière, 5 tournages. Des tournées, je ne crois pas, mais des tournages, oui. Et il y a eu, d'ailleurs, il en a produit 3 sur les 5 tournées. Là, il a produit 3 films. En 2015, par exemple, on lui doit Enragé. C'est un thriller, c'était de l'action avec Lambert Wilson. Et il y avait Virginie Ledoyen. C'était l'histoire d'un braquage qui tourne mal. Et il y avait 4 criminels qui prenaient la fuite, Enragé. Ah oui, là, ça pulsait. Hein. Et puis, tu as dit Mathieu Voller, oui, qui s'y est mis donc pour donner un grand coup de main à Éric Anezeau. C'est un réalisateur, scénariste, chef, monteur, ingénieur du son. Il est directeur de la photographie, producteur. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire dans le cinéma, cet homme-là? Je ne sais pas. En tout cas, il a 15 ans de carrière et 5 tournages, comme son ami Anezeau, à son actif. Alors c'est quoi Le Stade? C'est l'aventure humaine de l'équipe de rugby du Stade toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdu dans l'arène pour décrocher leur 5e étoile de champion d'Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l'histoire. Oh, ça dit donc, messieurs, ou peut-être mesdames aussi d'ailleurs, ou si vous aimez le club de rugby du Stade toulousain, ah, ne ratez pas ce documentaire. Ah ben oui, en noir et blanc en plus, c'est magnifique. Magnifique.
Très bien, et bien merci pour tous ces films, les films de la semaine sur Radio Entre Deux Mers. La conversation autour du cinéma, c'est tous les mercredis à 11h et les podcasts sur le www.re2m.com, catégorie podcast, conversation autour du cinéma. Et pour nous écouter en direct, c'est www.re2m.org ou la FM 98.4 en Gironde.
Même si vous habitez à 500 bornes, hein, n'importe où. Sur Internet,
oui.
Mais
la
FM, c'est ça, je parlais d'Internet.
C'est l'est de la Gironde et l'ouest du Lot-et-Garonne.
Ah non, je parlais d'Internet, là. Oui, oui, sur Internet, vous pouvez écouter n'importe où, il n'y a pas de souci.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Anne, et à la semaine prochaine.
Ben, écoute, merci à toi, Damien, hein, en tout cas. Eh bien, oui, on va se revoir rapidement. Et puis, mes chéris, ben, c'est pareil, hein, passez une excellente semaine. Ma foi, hein, bon, on verra bien la météo. Bon, ben, on va la prendre comme elle vient, tant pis. Bon, on fait avec, hein, après tout. Et puis, ben, soyez heureux, hein, le plus possible. Profitez de vos journées entières, du matin au soir, carpe diem. N'oubliez pas, il faut profiter de la journée qui passe. Voilà, comme ça, on est sûr, au moins, de l'avoir vécue, celle-ci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je ne veux pas que vous oubliez, surtout, quelque chose de très important, quelque chose de vrai, c'est que je vous aime. Bisous, bisous. Thank you.
yeux, tu sais.